Dans son discours inaugural de président des États-Unis, Jefferson a dit « la paix, le commerce, une honnête amitié avec toutes les nations, d'étroites alliances avec aucune. Méfiance, méfiance donc. » Étant donné que la plupart des relations humaines, qu'elles soient à titre individuel ou entre peuples, produisent presque toujours des tiraillements, Jefferson faisait preuve d'une certaine sagesse. Par contraste, l'Éternel a établi plusieurs alliances avec l'humanité dans lesquelles il s'est impliqué sans réserve et en particulier dans celle qui s'appelle la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Comme l'ancienne, elle a Dieu pour auteur et a d'abord été conclue avec Israël, le peuple choisi. Je continue à lire dans le chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux. La Nouvelle Alliance ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Puisqu'ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, moi alors je me suis détourné d'eux, dit le Seigneur. Verset 9. La quatrième caractéristique de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne est qu'elle ne repose pas sur un système de règles. En effet, l'alliance établie au mont Sinaï avec les Hébreux fraîchement sortis d'Égypte avait pour condition l'application de la loi que l'Éternel lui avait adjointe. Sous l'ancienne alliance, l'obéissance du peuple engendrait la bénédiction de Dieu et la désobéissance, sa malédiction. À cause de leur rébellion incessante, les Israélites ont été chassés de leur pays à plusieurs reprises, et même si aujourd'hui ils y sont revenus, ce n'est pas dû à leur soumission à Dieu, car mis à part les religieux fondamentalistes enracinés dans la tradition, Israël est une nation très laïque. Son existence et sa présence dans le pays de ses ancêtres est uniquement due au fait que Dieu est fidèle et n'a abrogé aucune des alliances qu'il a conclues avec son peuple. Je continue le texte. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son concitoyen ou à son frère, « Il faut que tu connaisses le Seigneur, car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. » Verset 10 et 11. La cinquième caractéristique de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne est que la connaissance de Dieu est personnelle. Le croyant fidèle oriente ses pensées et priorités et considère le monde selon le point de vue de Dieu et de sa parole. Sous la loi, quand les Israélites obéissaient, c'était principalement dû à leur peur du jugement. Aujourd'hui, le croyant cherche de lui-même à plaire à Dieu parce qu'il l'aime. Les 10 commandements furent donnés sur des tablettes de pierre et devaient être écrits sur les mains, le front et sur le pas de la porte, afin qu'ils soient constamment présents à l'esprit et mis en pratique. Sous le régime de la grâce, le Saint-Esprit de Dieu se révèle dans les pensées et les cœurs des croyants. Leur relation avec leur Père Céleste est un esprit en vérité au lieu d'être légaliste et ritualisé. Je continue le texte. « Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Verset 12. La sixième et suprême caractéristique de la Nouvelle Alliance est de pourvoir au pardon total. Sous la loi, les péchés revenaient constamment sur le tapis parce qu'ils n'étaient que provisoirement couverts par le sang des animaux sacrifiés, afin que Dieu ne les voie pas. Sous le régime de la grâce, Dieu les oublie au point où c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Je finis le chapitre 8. Par le simple fait d'appeler cette alliance-là nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne. Or, ce qui devient ancien et ce qui vieillit est prêt de disparaître. Verset 13. La septième caractéristique de la nouvelle alliance est qu'elle est la seule qui soit en vigueur aujourd'hui. Les Juifs ont souvent du mal à croire en Jésus parce que pour eux une telle démarche signifie que Dieu n'honore plus l'ancienne alliance avec ses préceptes, rites et cérémonies, ce qui leur est très difficile à concevoir. De plus, l'abandon des pratiques traditionnelles est vécu comme une amputation tellement la religion est imbriquée dans la culture juive. En annonçant la nouvelle alliance, Dieu déclarait la précédente ancienne, c'est-à-dire abrogée. En fait, elle allait disparaître avec perte et fracas. Quand il a écrit ces lignes, l'auteur considérait que les sacrifices qui avaient encore lieu à Jérusalem étaient spirituellement anachroniques, mais il ne pouvait pas savoir que d'ici quelques petites années, la ville sainte et le temple partiraient en fumée et qu'à partir de ce moment-là, il n'y aurait plus ni autel ni sacrifice. Or, sans eux, il n'y a plus d'ancienne alliance. Dans la réalité, celle-ci avait déjà été abolie quand le voile qui barrait l'entrée du lieu très saint fut déchiré de haut en bas comme par une main invisible. Quand Jésus est mort, il avait tout accompli et donc l'accès à Dieu était libre et ouvert à tous les hommes. L'époque de la loi de Moïse et des prêtres lévitiques était révolue et une nouvelle ère était engagée, celle du sacerdoce du Fils de Dieu pour l'éternité. Il est toujours utile de rappeler que si Dieu a supprimé l'ancienne alliance, ce n'est pas en raison d'une tare quelconque qu'elle posséderait, mais parce que la loi ne pouvait pas rendre l'homme juste devant Dieu, et les Israélites, comme l'humanité en général, étaient tout à fait incapables d'obéir de manière stricte à tous les commandements de Dieu. Même le grand apôtre Paul a écrit « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. » La dépravation de l'homme est comme un puits sans fond. Et je ne parle pas de votre voisin de palier ou de l'individu hirsute qui habite un peu plus loin, mais de vous et de moi. Sous le régime de la Nouvelle Alliance, c'est le Saint-Esprit qui prend les choses en main et qui régénère le cœur de l'homme, le rendant ainsi capable de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Nous arrivons maintenant au chapitre 9, où l'auteur va décrire succinctement comment fonctionnait le temple et le sacerdoce lévitique sous le régime de l'Ancien Testament. Mais il va surtout s'attarder sur la supériorité absolue de la nouvelle alliance établie par Jésus-Christ. Dieu ne demande pas à quelqu'un d'abandonner un système de croyance sans lui en offrir un autre qui soit bien meilleur. Comme je l'ai déjà dit, les Hébreux avaient le plus grand mal à placer leur confiance en Jésus-Christ parce que cette démarche signifiait pour eux abandonner la prêtrise selon l'ordre d'Aaron, les sacrifices, les cérémonies et tous les rites liés à la loi de Moïse. Ils ne pouvaient pas supporter l'idée que les pratiques traditionnelles que l'Éternel avait données à leurs ancêtres étaient de nature symbolique et pour un temps seulement, et que ce temps était maintenant révolu. Cette idée était particulièrement offensante à leur identité de juifs. Pour cette raison, l'auteur va s'attarder sur les différences entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il va commencer par résumer les principales caractéristiques du système lévitique, puis il fera de même avec la nouvelle alliance. On a tendance à regarder la loi de Moïse au travers des lunettes des 10 commandements et de toutes ses règles, surtout celles d'ordre moral. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux considère la loi selon un autre point de vue. Il s'intéresse surtout au sacerdoce lévitique et au sanctuaire, parce qu'ils étaient les traits d'union et les points de rencontre entre l'Éternel et les Israélites, grâce en particulier au sacrifice d'animaux. Je commence à lire le chapitre 9. Certes, la première alliance avait un rituel pour le culte ainsi qu'un sanctuaire qui était terrestre. Verset 1. Le sacerdoce lévitique établi par Dieu depuis Moïse et qui eut Aaron pour premier grand prêtre ne fut pas inutile. L'ancienne alliance servit à structurer un culte à l'Éternel et à désigner un lieu particulier où il devait prendre place, le temple de Jérusalem. Le fonctionnement du système lévitique était complexe et lourd, mais provisoire. Il avait pour but de préparer le peuple élu, et à travers lui, l'humanité, à la venue de la réalité, la perfection en Jésus. On pourrait presque dire que l'ancienne alliance servait à gagner du temps en attendant la conclusion de la nouvelle alliance pour l'éternité. Pour montrer la supériorité de la prêtrise de Jésus-Christ sur le sacerdoce lévitique, l'auteur va les comparer entre eux mais sans jamais dénigrer l'ancien système qu'il considère comme valable et légitime mais passager. Il ne faut pas perdre de vue que c'est l'Éternel qui a institué le rituel du culte de l'Ancien Testament ainsi que toutes ses cérémonies afin de préparer le peuple choisi à la venue et à l'œuvre du salut du Messie. Je continue. On avait en effet installé une tente, le tabernacle, partagé en deux. Dans la première partie se trouvait le chandelier et la table avec les pains offerts à Dieu. On l'appelait le lieu saint. Verset 2. L'auteur décrit le premier sanctuaire, le temple portatif du désert. Il n'était pas fait de pierre et de bois, mais confectionné en peau d'animaux. C'était une grande tente appelée tabernacle. Parce qu'il était encore plus fragile et temporaire que le temple en dur qui fut construit plus tard, il se prête mieux à la comparaison entre l'ancienne alliance passagère et la nouvelle qui est permanente. Le tabernacle pouvait être démonté et transporté, ce qui montre bien son caractère éphémère. Cela dit, alors que les textes sacrés ne consacrent que deux chapitres à la création du monde, une cinquantaine décrivent le fonctionnement du tabernacle parce que c'est en fait un gigantesque portrait de Jésus-Christ. La mise en place du tabernacle dans le désert a concrétisé le projet divin d'habiter au milieu de son peuple, ce qui est le but ultime de toutes les alliances que Dieu a établies avec l'homme. Ce projet divin rappelle la raison de la création de l'homme dans le jardin d'Éden, car de toute éternité, le Créateur a voulu partager qui il est avec des créatures qui seraient en mesure de l'apprécier et de l'adorer. Le parvis du tabernacle, c'est-à-dire la cour extérieure, faisait environ 50 mètres de long par 25 de large et il était clôturé. Il avait une seule porte de 2,50 m de haut et environ 10 de large, ce qui permettait à un grand nombre d'Israélites d'entrer en même temps. Pareillement, le tabernacle lui-même avait une seule entrée parce que un seul chemin et une seule porte mènent à Dieu. Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis la porte, nul ne vient au Père que par moi ». C'est vrai que le christianisme tel que le présente le Nouveau Testament est exclusif dans le sens qu'il n'accepte aucune religion humaine, mais c'est Dieu qu'il a voulu ainsi. Une fois entré dans le parvis, on avait devant soi l'autel des holocaustes qui était en bois d'acacia recouvert de bronze. Il faisait 2,5 m de côté et 1,5 m de haut. Il était surmonté d'une grille sous laquelle on mettait du charbon et sur laquelle on plaçait l'animal sacrifié. Les quatre coins de l'autel étaient munis de cornes en airain auxquelles on attachait l'animal qui allait être égorgé. L'autel des holocaustes prophétisait et représente la croix qui devint le lieu du sacrifice parfait du Fils de Dieu, dont le bénéfice s'étend à tous les hommes de tous les temps. Dans l'Évangile, Jésus est appelé l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. L'autel des holocaustes et la croix furent fabriqués par des hommes, mais conçus dans le ciel. À côté de cet autel se trouvait une cuve en bronze qui servait aux ablutions des prêtres avant qu'ils n'offrent les sacrifices ou n'entrent dans le tabernacle. Ce rite annonçait la purification morale et spirituelle que Jésus accomplirait en faveur des siens, ceux qui croient en lui. La tente du tabernacle faisait environ 15 mètres de long par 5 de large. Les premiers deux tiers s'appelaient le lieu saint et seuls les prêtres avaient le droit d'y pénétrer pour y faire leur service. Il s'y trouvait ordinairement trois meubles, mais l'auteur n'en mentionne que deux. Quand le prêtre entrait, sur sa gauche était le chandelier en or massif. Ses sept branches étaient remplies d'huile d'olive pure et brûlaient en permanence. Ce chandelier était le seul éclairage du tabernacle et il fait penser aux paroles de Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Quand Jésus l'a quitté, ce monde fut plongé à nouveau dans les ténèbres. Et aujourd'hui, seuls les croyants possèdent la lumière de la vie en Jésus. C'est lui qui dirige leurs pas et qui éclaire leur intelligence afin qu'ils soient conduits dans toute la vérité. Par son esprit qui habite en eux, Dieu les guide dans ce monde de ténèbres. À droite, en entrant dans le tabernacle, se trouvait la table avec les pains offerts à Dieu, des pains sacrés en somme. Il était en bois d'acacia recouvert d'or. Les murs intérieurs du temple aussi étaient plaqués d'or. L'or symbolise la royauté du Christ. Sur cette table étaient placés 12 pains qui représentaient les 12 tribus d'Israël qui s'offrent à Dieu. Ce petit meuble a plusieurs significations. Une table est un lieu de convivialité, de partage et de communion. L'Éternel désirait que les Israélites invoquent son nom et entretiennent avec lui des relations amicales. Cette invitation s'adresse aujourd'hui à tous les hommes. Ceux qui répondent à son appel s'assieront avec lui à la fin des temps et partageront le repas des noces de l'agneau. Jésus a dit à ses disciples « Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume ». En second lieu, ces pains de farine rappellent que Dieu pourvoit aux besoins de ses créatures, hommes et bêtes. Chaque sabbat, les pains étaient remplacés par des frais, tandis que les prêtres, et eux seuls, avaient le droit de manger ceux de la semaine écoulée. En troisième lieu, ces pains annonçaient déjà le repas souvenir que le Christ a établi à la veille de sa mort. Je cite un passage. Il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi ». Jésus a aussi dit « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim ». Ces 12 pains étaient cuits sans levain, une substance qui, dans les Écritures, représente presque toujours le mal, la méchanceté et l'hypocrisie. Ces pains préfiguraient le Christ venu du ciel qui serait sans la moindre faute. Vers le centre du lieu saint se trouvait l'autel des parfums, également fabriqué en acacia et recouvert d'or. Sur cet autel, on plaçait des charbons ardents qui provenaient de l'autel des holocaustes, situé dehors, et on y brûlait de l'encens odoriférant, et le nuage de fumée qui s'en échappait représentait la montée des prières du peuple vers l'Éternel. Ce nuage prophétisait aussi l'intercession en notre faveur de Jésus, notre grand prêtre. Je continue le texte. Derrière le second rideau venait la partie de la tente qu'on appelait le lieu très saint. Là était placé un brûle-parfum en or et le coffre de l'Alliance entièrement plaqué d'or. Versets 3 et 4. Au fond du lieu saint se trouvait un rideau qui fermait le lieu très saint, une pièce en forme de cube d'environ 5 mètres de côté. Seul le grand prêtre pouvait y pénétrer et une seule fois par an, le jour des expiations appelé Yom Kippour. Il devait entrer avec du sang dont il aspergeait le propitiatoire, aussi appelé siège de miséricorde, et qui était le couvercle du coffre sacré. Cette boîte mesurait environ 1,15 m de long et 70 de large et de haut. C'était le seul meuble du lieu très saint et pourtant, et assez curieusement, l'auteur mentionne la présence d'un brûle-parfum. Or, cet encensoir n'était présent dans le lieu très saint que le jour des expiations. Je lis le passage. Le grand prêtre prendra un plein encensoir de charbons ardents de l'autel de devant l'Éternel et 2 pleines poignées de parfum à brûler réduites en poudre, et il emportera le tout au-delà du voile. Là, il répandra le parfum sur le feu devant l'Éternel, de sorte que le nuage de fumée couvre le propitiatoire qui se trouve au-dessus de l'acte de l'Alliance. Ainsi, il ne mourra pas. L'auteur mentionne le brûle-parfum dans le lieu très saint pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'a pas mentionné la table des parfums quand il a parlé des meubles du lieu saint. Et ensuite et surtout, parce que, voulant constamment mettre devant ses lecteurs la personne du Christ, il décrit la situation le jour des expiations qui annonçait le sacrifice de la croix. Or, le nuage de fumée qui émanait de l'encens, qui dans l'encensoir brûlait devant l'Éternel, représentait bien la montée des prières du peuple, mais annonçait aussi la future intercession de Jésus, notre grand prêtre, pour les siens. Le coffre sacré et le couvercle étaient en acacia recouvert d'or. Aux deux extrémités du couvercle se trouvaient deux chérubins en or massif et aux ailes déployées. C'est là que l'Éternel se manifestait. Il a dit à Moïse, « C'est au-dessus du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur le coffre, que je me manifesterai à toi. C'est de là que je te communiquerai tous mes ordres pour les Israélites. » Les prêtres, qui étaient de service, entraient librement dans le lieu saint, mais les Israélites ne pouvaient pénétrer que dans le parvis, la cour extérieure au tabernacle. Cela dit, ni les uns, ni les autres n'avaient jamais le droit d'entrer dans le lieu très saint, où seul le grand prêtre avait accès avec du sang et l'encensoir une fois l'an, le grand jour des expiations. En d'autres mots, et pratiquement parlant, l'homme n'avait pas accès à Dieu. Le coffre sacré et son couvercle, le propitiatoire, qui symbolisait la présence de Dieu, sont accessibles à tous depuis la mort de Jésus. L'apôtre Paul écrit, « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, c'est-à-dire la victime qui expie les péchés. Or, Jésus est la seule victime expiatoire qui a été agréée par Dieu. Dans l'Évangile, on lit, « Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. »